Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous abordons le chapitre 13, mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Robert qui va nous aider à mieux comprendre l'enseignement de Jésus. Robert, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Au début de Marc, chapitre 13, Jésus s'est lancé dans un grand discours avec comme thème l'avenir. Par moments, il évoque l'histoire qui caractérise notre âge présent. À d'autres, il parle de la chute de Jérusalem et parfois, il oriente nos pensées vers son retour en gloire.
Écoutons donc le texte biblique pour aujourd'hui. Marc chapitre 13, versets 24 à 31. Cédons la parole à notre lectrice.
Cependant, en ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez se produire ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.
Merci. Dans ce texte, nous constatons bien que Jésus évoque des temps et des événements différents.
Dites-nous pourquoi ?
Il est clair qu'il parle de son retour en gloire et des événements qui vont le précéder. D'autre part, il précise aussi que certains de ses contemporains seront encore en vie quand, pour citer les paroles de Jésus, cela commencera à se réaliser.
Puisque tous les apôtres sont morts il y a fort longtemps et que Jésus n'est pas encore revenu, cette phrase ne peut pas faire référence à la fin de cet âge présent.
C'est exact, Yann. Il est probable que Jésus parlait en cet instant précis des événements conduisant à la destruction de Jérusalem. Cela s'est produit en l'an 70, environ 30 à 40 ans après ce discours de Jésus. Nous savons que certains apôtres étaient encore en vie. Il est important aussi de noter que Jésus précise que ces événements commencent à se réaliser. Il est possible qu'il veuille dire que la chute de Jérusalem arriverait vers le début de la période entre sa résurrection et son retour en gloire, et interpréter ainsi qu'il ne fallait pas en conclure que la fin était proche.
Merci pour ces précisions. Cependant, au début du texte lu aujourd'hui, Jésus évoque clairement son retour à la fin de cet âge. Il parle des événements qui le précéderont. Il déclare que le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Que voulait-il dire par là?
Il est difficile de savoir à quel point il faut lire ces paroles de façon littérale ou figurative. On pourrait spéculer que certaines catastrophes naturelles peuvent produire de tels effets. Les mots « les étoiles tomberont du ciel » pourrait faire référence à de gros astéroïdes heurtant la Terre. Ces collisions produiraient une poussière considérable qui remplirait l'atmosphère, obscurcissant toute source de lumière venant du Soleil et de la Lune. Voici donc un scénario tout à fait possible qui serait catastrophique pour la race humaine. Toutefois, je ne voudrais pas affirmer que cette prophétie s'accomplira obligatoirement ainsi. D'autres interprétations, y compris celles qui sont davantage figuratives, sont tout à fait possibles. Il est important de rester assez ouvert sur les réalisations possibles de ces paroles de Jésus.
Tout à fait. Et Jésus ajoute que les puissances célestes seront ébranlées.
C'est exact, Yann. Il s'agit des puissances spirituelles maléfiques qui dominent actuellement notre monde, à savoir Satan, les puissances démoniaques et les mauvais esprits. Et il est possible aussi que le soleil, la lune et les étoiles dont Jésus parle représentent ces puissances maléfiques et idolâtres. À l'époque de Jésus, comme de nos jours, beaucoup attribuent des pouvoirs spirituels aux astres. Certains les craignent comme des dieux et cherchent à les manipuler par des moyens occultes. Donc, les propos de Jésus pourraient indiquer de façon figurative la chute et la défaite de ces puissances qui tiennent la plupart de la race humaine en esclavage. Mais nul doute, le retour de Jésus-Christ dans toute sa gloire marquera la fin de la domination du monde par Satan et ses puissances maléfiques. Jésus triomphera d'eux et leur chute sera spectaculaire et définitive.
Alors, vous venez de nous donner deux interprétations possibles de ces versets. Pour laquelle pencheriez-vous ?
Le triomphe final de Jésus sur les puissances spirituelles me semble la plus cohérente. Toutefois, que la lutte finale entre Jésus et ses puissances maléfiques se manifeste sur terre par des événements catastrophiques me semble tout à fait probable. Ces catastrophes pourraient être d'ordre naturel, tout comme elles pourraient avoir pour origine les actions d'hommes encore sous l'influence de puissances maléfiques, désespérés.
Merci Robert de nous avoir éclairé sur ces versets difficiles. Y a-t-il d'autres leçons à retenir concernant le retour de Jésus ?
Oui, son retour sera visible par tous. Lors de son premier avènement, le Fils éternel est venu dans notre monde sous la forme d'un bébé. Dieu était parmi nous en la personne de Jésus-Christ, mais il agissait discrètement. Sa véritable identité était voilée. Et peu de personnes ont discerné par la foi qui il était. Toutefois, quand Jésus reviendra, nous le verrons et tous reconnaîtront qu'il est le souverain de l'univers. En ce jour, sa gloire et sa puissance seront révélées et nul ne pourra se tromper sur son identité.
Puis, au moment de son retour, il est dit qu'il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon. Que signifient ces paroles ?
Tout simplement que Jésus reviendra pour sauver les siens. Les élus sont tous ceux et celles que Jésus a rachetés ou libérés par sa mort sur la croix. Les élus sont tous ceux qui se sont réconciliés avec Dieu en passant par le pardon des péchés que Jésus offre et la repentance. Ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui seront gardés par sa puissance et son amour fidèle jusqu'au jour où Jésus reviendra pour apporter sa délivrance finale et définitive. Il est intéressant de noter que ces élus seront rassemblés des quatre coins de l'horizon. Jésus s'adressait en ce temps-là à 12 hommes. Mais à partir du témoignage de ces 12 et de l'Église à travers les siècles, la bonne nouvelle a touché d'innombrables personnes partout sur notre planète. C'est un rappel de la grandeur et de la largeur des desseins de Dieu. Jésus est pour tous. Il est venu libérer et réconcilier des gens de toute nation, de tout peuple et de toute langue.
Merci. Et comment voulez-vous conclure notre discussion pour aujourd'hui ?
Jésus le déclare. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dire que ces paroles ne passeront jamais est une façon d'affirmer que ces promesses sont bien fondées et solides. C'est une façon de déclarer qu'il tiendra sa parole. Elle s'accomplira. Il est vrai qu'à vue humaine, le retour de Jésus se fait attendre depuis des siècles. Cependant, les paroles de Jésus sont entièrement dignes de confiance. Il a annoncé la chute de Jérusalem et elle s'est produite en l'an 70. Il nous a mis en garde sur les guerres et les rumeurs de guerre. Il nous a prévenus de l'arrivée de faux prophètes, de faux Christ et de faux enseignants. Toutes ces paroles se sont réalisées. De ce fait, nous pouvons lui faire confiance et fortifier notre espérance. Nul doute, il reviendra un jour pour nous rassembler autour de lui et avec la multitude des élus, nous serons éternellement à l'abri de tout mal.
Merci Robert pour ce rappel que nous avons une espérance merveilleuse. Dieu nous l'assure. Il la tient en réserve pour nous, et il est un Dieu fidèle à ses promesses. À présent, nous vous présentons une courte méditation biblique. Claude va poursuivre sur le thème du retour de Jésus-Christ en s'appuyant sur l'enseignement de Pierre trouvé dans sa deuxième épître au chapitre 3, versets 10 et 11. Écoutons d'abord notre lectrice.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu.
Bonjour, chers amis. Jésus reviendra sans aucun doute. Mais de même que nous ignorons le jour ou l'heure choisie par un voleur pour entrer dans notre maison et y dérober nos biens, nous ne pouvons pas prédire la date du retour de Jésus-Christ. Cependant, il est sage de prendre ses précautions pour protéger sa maison. Il est sage de mettre des barreaux aux fenêtres et de fermer les portes à clé. Oui, il faut prendre ses précautions et être prêt à tout moment à l'éventuelle arrivée d'un voleur. De la même manière, Pierre exhorte le chrétien à vivre d'une certaine manière en attendant le retour de son Seigneur. Il nous pousse à mener une vie sainte et à demeurer fermement attachés à Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté. Autrement dit, nous devons être différents du monde qui nous entoure. Différents, certes, mais comment ? On pourrait dire tant de choses. Pratiquer la pureté sexuelle et la fidélité dans le mariage, alors que la débauche et l'adultère sont si fréquents. Pratiquer l'intégrité, l'honnêteté, là où règne le mensonge et la corruption. Pardonner au lieu de se venger. Promouvoir la paix là où règnent des conflits. Vous pourriez, je suppose, continuer la liste. Comment mener une vie sainte dans un monde mauvais? En vivant pour Dieu et en s'attachant à lui, par la prière et la méditation de sa parole, par la foi et la repentance, par la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Nous ne parviendrons pas à la sainteté par nos propres efforts, sans l'aide divine. Non, nous dépendons de l'Esprit de Dieu en toutes choses. Et plus nous demeurons attachés à Dieu, plus son Esprit nous conduit vers la sainteté.
Merci Claude pour cette exhortation importante. Nous devons ainsi terminer notre émission. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.